les crises, les conflits religieux qui ont marqué l'Église à l'époque de Constantin. Le premier de ces conflits, le conflit donatiste, et ensuite le conflit arien, avec tout ce qui concerne le concile de Nicée, etc. On en a déjà quelque peu parlé dans la présentation générale du règne de Constantin, mais nous allons maintenant y revenir beaucoup plus en détail parce que c'est fondamental, et en même temps parce que ça recoupera aussi un peu notre cours de doctrine sur ce que, quand on attaquera donc ce qui concerne la doctrine de Dieu. Si tout va bien la prochaine fois. Alors, première crise de cette époque-là, sur le plan de l'Église, le conflit donatiste. L'avènement de Constantin va avoir un certain nombre de conséquences sur les problèmes internes que l'Église connaît déjà depuis un certain temps. D'abord parce que le but premier de l'empereur, en adoptant le christianisme comme religion d'État, c'est d'en faire un facteur d'unification de l'Empire. Il est par conséquent indispensable pour lui que l'Église soit unie. Bien sûr, si l'Église était désunie, tout son plan, eh bien, serait remis en question. Et lorsque l'empereur va publier l'édit de Milan, il va très vite se rendre compte qu'il se trouve en face d'une Église qui est loin d'être unie. Et il va tenter, par divers moyens, de promouvoir l'unité de l'Église, d'abord en faisant appel à cette Église elle-même, en lui disant, bien, mettez-vous d'accord. Et lorsque cela se révélera impossible, Constantin interviendra lui-même dans les affaires de l'Église pour rétablir l'unité. Entre parenthèses. Il y a là un phénomène tout à fait intéressant parce que jusqu'ici, l'unité doctrinale avait toujours été certes un problème dans l'Église et déjà depuis les premiers siècles, des schismes et des hérésies l'avaient traversé, mais le problème ne s'était jamais posé en des termes aussi aigus. Et deuxièmement, Constantin, lui, va rechercher non seulement une unité doctrinale, mais une centralisation de l'Église. Et Constantin va être amené à créer des instances suprêmes de référence, en sorte que, eh bien, ces instances pourront trancher à l'occasion de conflits. Donc, nous voyons se mettre en place d'une manière, cette fois-ci, très, très accentuée, les structures de l'Église romaine telles qu'elles apparaîtront depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Ensuite, Constantin, en intervenant directement, comme il va le faire dans les affaires de l'Église, va amener celle-ci à prendre conscience d'une réalité nouvelle. C'est que le parti qui, dans l'Église, parviendra à mettre l'empereur de son côté, aura son appui, mais non seulement aura son appui, mais aura l'appui de la force publique pour museler et pour détruire ses adversaires. Et nous allons voir apparaître ici pour la première fois, ce qui sera une des plaies de l'Église au Moyen-Âge, ce recours au bras séculier pour mater les adversaires de l'Église, les hérétiques, ou ceux qui sont considérés comme tels, et les schismatiques, c'est-à-dire aussi ceux qui sont considérés comme tels. Avec l'édit de Milan en 313, les prêtres chrétiens sont reconnus d'une certaine manière d'utilité publique parce qu'ils procurent à l'empire, bonheur et prospérité. Et précisément, au nom de cette déclaration d'utilité publique, l'empereur entreprend de rendre aux églises les biens qui leur ont été confisqués au cours des années qui ont précédé, notamment de la dernière grande persécution. Et c'est là qu'éclate le premier de ces conflits, le conflit donatiste. En effet, en Afrique, eh bien, depuis déjà pas mal de temps, il y a des troubles extrêmement importants. Ces troubles remontent en fait à la fin du IIe siècle, au moment de ce que l'Église officielle considère comme l'hérésie montaniste. Et cette hérésie montaniste, entre guillemets, s'est prolongée par l'hérésie de Novatien. Alors, se pose justement en Afrique le problème de l'élection de l'évêque. Et face à l'évêque officiel, catholique, on voit surgir un autre prétendant au siège épiscopal à Carthage, qui se nomme Donatien. Ce Donatien est soutenu par une dame très noble et très riche, très importante de Carthage, qui s'appelle Lucilla, et qui a ouvert sa maison pour des réunions spéciales, où se rassemblent tous ceux qui pensent que l'Église officielle est corrompue, qui sont à la recherche de pureté, qui refusent que soient réintégrés les relapses. C'est toujours ce même problème, parce qu'on est quand même ici dans la droite ligne de la persécution de Dioclétien, Domitien, pardon, si bien que cette maison de Lucilla est une espèce de foyer d'effervescence dans Carthage, d'où l'opposition à l'Église officielle s'exprime. Et il y a, au moment de l'élection de l'évêque, eh bien, finalement, deux évêques qui sont élus. Un par les catholiques, le deuxième par les partisans de Donatien. Alors, se pose pour l'empereur le problème, à qui rendre les biens qui ont été confisqués? Lequel, finalement, de ces deux évêques est le bon? Et que faut-il faire? Eh bien, justement, ce problème pose de but en blanc, cette question pose de but en blanc le problème des rapports entre l'Église et l'État. Alors, cette même année, l'empereur demande que l'Église tranche. L'empereur s'adresse aux instances officielles de l'Église et dit, eh bien, désignez-moi lequel de ces deux évêques est le bon à qui il va falloir rendre les biens qui ont été confisqués. Un synode se rassemble donc à Rome pour étudier la question, au terme duquel Donatien est excommunié pour essentiellement pour avoir rebaptisé. Voilà le grand reproche qu'on lui fait. Il a pratiqué des rebaptêmes. Et entre parenthèses, on voit que le problème du rebaptême, entre guillemets, est un problème qui se pose déjà depuis longtemps. En fait, il avait pratiqué le baptême des adultes, le baptême des croyants, tout simplement, parce qu'il refusait le baptême des enfants. Alors, pour cela, donc, le voilà excommunié. La décision est communiquée à la ville, aux chrétiens de Carthage, mais ces derniers prennent le parti de Donatien. Ils ne veulent absolument pas entendre parler de la décision de Rome, qu'ils considèrent comme étant une décision injuste. Et ils en appellent à l'empereur qui se trouve ainsi promu au rang d'arbitre. Et l'empereur est très ennuyé par cet appel qui est ainsi fait à lui, parce que lui n'a pas du tout envie de tromper dans cette affaire-là. Il pense que c'est à l'Église de résoudre elle-même ses propres problèmes. Lui, son but unique, c'est que l'Église retrouve son unité. Ah, pardon, on a commencé photo, c'est vrai, on a oublié quelque chose. Son but unique est donc que l'Église retrouve son unité. Alors, il convoque un autre concile, un autre synode, pardon, qui se tient à Arles, en Gaule, et devant lequel les partisans donatiens ont la possibilité de comparaître et de s'exprimer, ce qu'ils n'avaient pas eu le droit de faire au synode de Rome. Donatien est sommé de se rétracter, d'abandonner son siège épiscopal, ce qu'il refuse de faire avec ses partisans. De nouveau, on se trouve dans l'impasse la plus complète, les Donatiens font appel à l'empereur, deuxième appel à l'empereur. L'empereur refuse encore une fois d'intervenir dans cette querelle interne de l'Église et il envoie une lettre aux deux évêques rivaux leur demandant de se réconcilier, disant qu'après tout, peut-être qu'il conviendrait de s'arranger à l'amiable, tout en constatant qu'il y a des points sur lesquels on ne s'entend pas. Fort de cette lettre, les Donatiens s'emparent des églises, qui auraient en principe dû être restituées aux catholiques, car n'oublions pas la majorité de la population de Carthage est de leur côté. Et évidemment, les catholiques sont très très maris de l'affaire. Ils s'adressent à l'empereur, lui demandant d'employer la force pour que, au moins, les biens ecclésiastiques leur soient rendus. Ce qui est fait, l'empereur fait intervenir l'armée et des troubles importants éclatent autour de Carthage, en Afrique, qui menacent de prendre de l'ampleur. Si bien que Constantin se voit ici dans une situation qui va à l'inverse de tout ce qu'il avait cherché. Lui, chercher à faire de l'Église la religion officielle pour qu'elle garantisse la paix de l'Empire, et à cause d'une querelle d'Église, voilà qu'une partie de son empire, l'Afrique, risquait de se révolter et d'entrer en dissidence. Alors, ce faisant, Constantin décide de calmer le jeu, et il écrit à l'évêque catholique de Carthage, en disant que, après tout, l'Évangile demande que l'on souffre des injustices, qu'on supporte des injustices dans la charité, et que plutôt que de continuer à essayer de mettre au pas les rebelles par la force, eh bien, il vaudrait peut-être mieux prier pour eux, et puis user de patience, de miséricorde et d'amour, en attendant que le Seigneur les convainque, et puis que les choses rentrent dans l'ordre petit à petit. L'évêque catholique, au reçu de cette lettre, grince un peu des dents, mais comme évidemment il ne peut pas trop s'opposer à la décision de l'empereur, il est bien obligé de faire preuve, comme le dit l'empereur, d'amour, de patience et de prière, ce qu'il fait, n'en doutons pas, à contre-cœur. Mais en même temps, c'est pour Constantin l'aveu d'un échec terrible. Il y a donc la reconnaissance quasi officielle d'une hérésie, enfin disons d'une dissidence dans l'Église. Et cette dissidence va subsister jusqu'à peu près au 7e siècle. Alors vous voyez, quand on nous parle, quand les historiens de l'Église catholique officielle nous parlent avec des trémolos dans la voix de l'Église une, sainte et apostolique et romaine, n'est-ce pas ? Eh bien, cette unité est particulièrement discutable. Puisqu'au moment où précisément l'Église aurait dû, plus qu'à aucune autre époque, être une, parce qu'elle était l'instrument de l'unité de l'Empire, eh bien, dès le départ, elle se trouve divisée par un schisme extrêmement important qui entraîne toute une partie de l'Empire, justement, dans ce schisme-là. Donc, un échec grave pour l'empereur dès le début de son règne. Mais ceci n'est rien à côté de ce qu'il attend. Et de ce qu'il attend, cette fois-ci, avec le conflit arien. Et maintenant, pour parler du conflit arien, il nous faut revenir quelque peu en arrière. En fait, la situation ici et le danger de division que va présenter le conflit arien est bien pire que le problème des donatistes. En effet, le conflit donatiste était quand même relativement circonscrit à une province de l'Empire, l'Afrique. Avec le conflit arien, c'est une division qui va se répandre dans l'ensemble de l'Empire romain. Et ce conflit va entraîner des troubles énormes, des guerres, qui vont sérieusement compromettre le plan qui était celui de Constantin. Les conséquences, Constantin va être amené cette fois-ci à intervenir directement, car il ne pourra plus faire comme les donatistes en disant bah, après tout que chacun se débrouille. Parce que là, ça entraîne des conflits armés sur l'ensemble de l'Empire. Et Constantin va être obligé de lancer tout son poids dans la balance pour tenter de trouver, vaille que vaille, une solution. Et cette solution, ça va être le Concile de Nicée, convoqué sur l'ordre de l'empereur, conduit de A jusqu'à Z par l'empereur, qui va mettre au point une formule qui sera suggérée et plus que suggéré par l'empereur, donc une intervention directe de l'État dans les affaires de l'Église. Constantin avait bien senti qu'il y avait là quelque chose qui était dangereux. Et c'est pourquoi, au moment où les adversaires des donatistes avaient essayé de faire appel à lui, il avait refusé d'entrer dans de servir d'arbitre. Mais avec l'arianisme, les choses ont atteint un tel degré d'évolution qu'il va être volens nolens obligé d'intervenir lui-même avec des conséquences incalculables qui se font sentir jusqu'à nos jours et dont nous souffrons, nous, ici, encore. Alors, il faut remonter un siècle plus tôt pour comprendre les origines du conflit arien avec Origène. Origène, le grand docteur d'Alexandrie, qui avait une position assez indépendante dans l'ensemble de la chrétienté, bien que l'Église égyptienne était très proche de Rome. En fait, souvenons-nous de ce que nous avons dit dans notre cours sur l'Église du IIe siècle, il est fort probable que l'Église d'Égypte ait été fondée par des missionnaires venus de Rome, si bien que l'Église égyptienne s'était toujours plus ou moins sentie tributaire de Rome. Et ceci ne sera pas sans importance non plus dans le conflit arien. Deuxième point, l'Église d'Alexandrie avait une rivale directe, c'était Antioche. Entre Antioche et Alexandrie, ça n'allait pas du tout, mais pas du tout, et ça jamais. C'était deux sièges épiscopaux ou patriarcats rivaux, et cette rivalité, disons, quasiment politique, va envenimer le conflit arien d'une manière particulièrement regrettable. Alors, c'est Origène qui, à Alexandrie, avait le premier ouvert la porte à des spéculations. Il y a quelque chose qui n'y a pas ça, si vous me bloquez, s'il y a quelque chose qui n'y a pas. Oui, les deux centres rivaux. Origène avait donc ouvert la porte à des spéculations sur la nature de Christ. Notamment à partir de la notion de logos que l'on trouve dans l'évangile de Jean, la parole, le commencement était la parole, le logos en grec. C'est aussi là que un juif non chrétien, Philon d'Alexandrie justement, avait spéculé sur le logos, bien avant Origène bien sûr. Et Origène avait donc repris les spéculations de Philon sur le Logos pour essayer de comprendre comment le Logos avait pu s'incarner en Christ. Quelles étaient les relations du Logos avec le Père? Quelles étaient les relations du Logos avec la sagesse personnifiée dans le livre des Proverbes? Enfin bref, il y avait ainsi tout un ensemble d'études qui avaient été faites à ce moment-là par cette école que l'on appelait l'école des catéchins. En 247, un certain Denys devient évêque d'Alexandrie. Et il se veut un disciple fidèle d'Origène. Et à cette époque-là, Alexandrie, le problème essentiel, c'est le problème des chiliastes. Chiliastes, c'est-à-dire les millénaristes, qui persistaient à croire que le Christ régnerait d'une manière personnelle sur la terre pendant 1000 ans, selon ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. C'était l'époque où l'Église cherchait surtout à s'installer, à régner, et où par conséquent, on faisait la chasse aux espérances de ce type-là, et les polémiques contre les chiliastes étaient très vives. Et c'est ainsi que Denys est amené à écrire un livre où il démontre que l'Apocalypse de Jean n'est pas inspiré. Rien que ça. Ça, au moins, on est tranquille. Mais, hélas, après avoir ainsi réglé son compte aux chiliastes, Denys doit faire face à un autre problème, c'est celui du sabellianisme. Le sabellianisme, souvenons-nous, c'était la doctrine de l'évêque Sabellius qui affirmait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient trois manifestations diverses du même Dieu. Dieu pouvant se manifester et agir en tant que Père, ou bien pendant l'incarnation en tant que Fils, et depuis l'ascension du Fils, il agissait en tant que Saint-Esprit, mais que ces trois éléments de la divinité n'avaient pas d'existence personnelle propre, indépendante l'une de l'autre. Et ce faisant, Sabellius pensait pouvoir se maintenir d'une manière très ferme à l'unité de Dieu, le Dieu un. Et c'est le point de départ justement de l'hérésie arienne. En effet, on se met à polémiquer à Alexandrie contre les sabellianistes. Ça, c'était déjà donc bien avant Constantin, c'était en 260, à peu près avant Jésus-Christ, que l'on commence donc cette grande polémique où il s'agit justement de montrer que le Père et le Fils, bien qu'étant profondément unis, sont deux personnes différentes, ce qu'on appelle en grec des hypostases. Donc, qu'ils ont chacun d'entre eux, une personnalité qui leur est propre. Et pour mieux, justement, appuyer cette démonstration, on insiste sur le fait que le Fils est subordonné au Père, ce qui est parfaitement biblique. Nous trouvons ça chez saint Paul, en particulier dans l'Épître aux Romains, chapitre 4. Mais à partir de là, devant l'âpreté de la controverse, eh bien certains, dont Denys lui-même justement, vont basculer beaucoup, beaucoup trop loin. Et Denys, dans le feu de la discussion avec les unitariens, n'est-ce pas, va aller jusqu'à affirmer que, en fait, le Fils est un être créé. Le fait qu'il soit subordonné au Père prouve qu'en fait, nous avons affaire à un être créé. Alors, le conflit déborde, et les adversaires de Denys écrivent à Rome, à l'évêque de Rome, en raison, encore une fois, des relations particulières qui unissent l'église d'Alexandrie et l'église de Rome. Alors, n'étant pas en reste, Denys écrit à l'évêque de Rome pour lui préciser sa position, notamment, justement, sur le fait que le Fils ne serait en fait un être créé. Et alors là, le conflit éclate vraiment. Le pape réagit très vivement et il rejette un, que le Fils soit un être créé, en quoi il a parfaitement raison. Par contre, il rejette aussi la doctrine des hypostases, c'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit seraient trois personnalités distinctes. Et il se base pour cela. Alors, Denis plutôt se basait, lui, sur une formule vague d'Origène, n'est-ce pas, pour conclure que le Père avait, le Fils avait été créé. En fait, Origène n'a jamais rien enseigné de semblable. Ça va pas ? C'est ça ? Hypostase H. Y-P-O-S-T-A-S-E-S. Oui, c'est des mots un peu barbares, tout ça, mais on est obligé, évidemment, de... Là, les Grecs affectionnaient, n'est-ce pas, ce genre d'expression. Alors là où on va y avoir droit, hein, pendant toute cette étude là-dessus, il faut s'y faire. Les hypostases, l'homoloussie et toutes ces choses-là, la youssie, l'homoloussie, etc., vous allez voir. C'est sûr que les Grecs affectionnaient de ces termes-là. Hypostase, ça veut dire les personnes, tout simplement. C'est-à-dire, oui, les personnes. Enfin bref, le pape rejette cela et il affirme que, en fait, le Fils est un être qui est engendré et non pas créé. Ça, ce sera une formule qui sera reprise par le Concile de Nicée. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Deuxièmement, que le Fils est éternel. Alors, on dira, mais comment a-t-il été engendré s'il est éternel ? La réponse est celle-ci, il est éternellement engendré par le Père. Ça veut dire qu'il tire à tout instant son existence du Père. Et là, c'est une exégèse du prologue de Saint Jean, n'est-ce pas ? Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, elle était tournée vers Dieu, dit littéralement le texte grec. Alors, Denis, qui n'est... Pardon ? Non. C'est l'exégèse du Logos. Dans toutes ces discussions-là, c'est le Logos qui est le texte de référence. Alors, à partir de là, Denis d'Alexandrie, qui n'était pas un grand théologien finalement, bien se rétracte. Très humblement, il dit, bah, c'est vrai, oui, j'étais trop loin, je reviens. Alors, c'est lui qui, le premier, justement, est amené à... employer une autre expression qui va être justement sujet d'une vive discussion, le terme justement d'homoloussie. Alors, ça veut dire, n'est-ce pas, ceci, le Fils est consubstantiel au Père. C'est demi, oui. Oui, mais basculant là, d'un extrême à l'autre. Ça veut dire, il est de la même substance que le Père. Mais ce faisant, il rassemble, n'est-ce pas, tout le monde. Tout le monde est d'accord à Alexandrie pour accepter cette expression-là. Y compris, et il n'a pas vu là le brave Denis, il est tombé dans le piège de ses adversaires, y compris les sabellianistes. Car les sabellianistes disent, bon, parfait. Si le Fils est consubstantiel au Père, c'est donc qu'il n'est pas une hypostase du Père. Et donc, il n'est pas une même personne que le Père. Il est de la même substance. Il est une émanation du Père. Alors, tout le monde est content parce que tout le monde emploie le même mot, mais on n'y met pas la même signification. Mais enfin, dans l'immédiat, l'affaire se termine là. Tout le monde accepte le terme d'homoiousi, homoiousos, donc consubstantiel au Père. Mais évidemment, chacun... se le représente d'une manière tout à fait différente. Et c'est précisément là que les choses vont se dégrader. En effet, à Antioche, la querelle va rebondir. Elle va rebondir au travers d'un certain Paul de Samosate, qui devient évêque de la ville en 260, donc la même année. Alors, en Paul de Samosate. Paul, comme Paul, S-A-M-O-S-A-T. Donc la même année, il devient évêque d'Antioche. N'oublions pas la rivalité entre Antioche et Alexandrie. Et en, donc, quelques années plus tard, 8 ans plus tard très exactement, les Alexandrins obtiennent la destitution de Paul pour une hérésie qui, en fin de compte, est assez mal précisée. On ne sait pas trop ce qui s'est passé au juste. Mais en fait, il semble que pour lui, pour Paul de Samosate, le Logos, en fait, n'est pas le Fils de Dieu. Alors là, c'est une doctrine très subtile. Le Logos, c'est une émanation du Père. Et cette émanation du Père, elle s'incarne dans l'homme Jésus. Car Paul de Samosate continue à affirmer, oui, le Fils est bien consubstantiel au Père, dans la mesure où justement le Logos n'est que cette manifestation d'action de Dieu dans l'homme Jésus. Dans ce sens-là, on peut vraiment parler d'homoïousie. En fait, c'est une résurgence de la vieille hérésie sabellianiste, parce que pour lui, la puissance divine, en fait, est une manifestation, se manifeste dans la personne de Jésus. Alors, eh bien, c'est la condamnation. Paul est condamné. Et toute l'affaire repart, parce qu'évidemment, Paul a des partisans, qui font valoir en particulier que finalement, Jésus n'est rien d'autre qu'un prophète. Il est un prophète qui est un petit peu plus grand que les autres prophètes. La différence entre lui et les prophètes est non pas qualitative, mais quantitative, avec quand même une certaine différence qui n'est pas négligeable, c'est que Jésus est né par un miracle, tandis que les prophètes sont en fin de compte des hommes. Alors, à cause de cela, toute cette question de Molossi rebondit. Et en particulier, l'école d'Alexandrie, maintenant, remet en question le thème de Molossi. Si on entend par Molossi le fait que le Fils ne soit rien d'autre, finalement, qu'une le réceptacle d'une émanation de l'essence de Dieu, alors nous, disent les Alexandrins, on rejette ce thème. Ce thème qui avait été accepté de justesse, en fin de compte, par les Alexandrins, se trouve maintenant totalement remis en question. Et alors, à ce moment-là, éclate entre l'église d'Antioche et l'église d'Alexandrie un véritable schisme. On appelle le schisme mélicien en Égypte, sous la pression, justement, de l'évêque du même nom. L'évêque, pardon, d'un pseudo-évêque qui pousse le véritable évêque, enfin, savoir qui est le vrai, qui est le faux là-dedans, d'ailleurs. Enfin, au terme de l'Église catholique, quoi, le vrai est chassé par le faux. Mélicius se nomme évêque, et il envoie son successeur finir ses jours dans les mines de cuivre en Israël. Enfin, il finira pas ses jours, d'ailleurs. Il en sortira pour le plus grand malheur de Mélicius, nous allons voir dans un instant. Bon, c'est aussi l'époque où, à nouveau, se pose la question des relapses. Ces gens qui, pendant la persécution, ont apostasié, et qui, maintenant que la paix est rétablie, demandent leur réintégration dans l'Église. Alors, l'Église officielle, qui est très indulgente, impose à ces relapses des pénitences légères, notamment, par exemple, une ou deux années de pénitence, et puis ensuite ils sont réintégrés en grande pompe dans l'Église. Bon, il est évident que les véritables martyrs, ceux qui ont vraiment souffert de la persécution, je trouve ça un peu raide quand même, quoi, hein, que on réintègre ces gens qui ont apostasié, qui ont renié la foi, à des conditions aussi bénignes, ils renaclent et ils prennent le parti donc des miliciens qui eux sont beaucoup plus stricts sur la question des relapses, si bien que se crée alors là une nouvelle église qui en 325 comptera déjà 28 évêchés. En 306, Mélicius est excommunié. Et c'est là que le nom d'Arius apparaît pour la première fois. Arius est un de ses diacres, plutôt, c'est un presbytre, pardon, ce sera direct après, qui est nommé ainsi, qui est nommé ancien, prêtre, si vous voulez, par Mélicius, donc par le faux évêque. Bon, l'affaire se termine assez mal, car lorsque Mélicius est excommunié, Arius, lui, eh bien, abandonne Mélicius et se rallie à l'Église officielle. Laquelle Église officielle l'accueille et le rétrograde un peu, le nomme diacre. Alors, le nouvel évêque se nomme Pierre, Pierre d'Alexandrie, et il ordonne à tous ses fidèles de ne reconnaître aucun de ceux qui ont été ordonnés et nommés par Mélicius. Et c'est alors que Arius entre en conflit avec lui, parce que lui voudrait retrouver son poste de presbytre. Pierre s'y oppose à tout prix, et à nouveau, Arius est excommunié une deuxième fois. Alors, il attend que les choses se tassent un peu. Lorsque un nouvel évêque est nommé, il se réconcilie avec lui, et cette fois-ci, il retrouve le presbytérat auquel il tenait tant. Et il va devenir un des plus ardents propagandistes contre le sabellianisme, contre Paul de Samosa, et il va commencer à polémiquer contre tous ces hérétiques-là. Évidemment, il reprend ce que de Nice d'Alexandrie annonçait en son temps, savoir que Jésus est un être créé, qu'il est subordonné au Père, donc un être créé. Le voilà à nouveau convaincu d'hérésie et à nouveau excommunié une troisième fois. Alors, par contre, ce qu'il dit arrive jusque aux oreilles des gens d'Antioche qui prêtent une oreille extrêmement attentive. C'est ainsi que Arius peut y annoncer que le Logos, il reprend les textes de Paul de Samosate en fin de compte, à partir du moment où il y a subordination du Fils, eh bien, le Fils est donc un homme, un être, qui, tout en ayant, qui parce qu'il justement il a une identité différente de celle du Père, s'il était d'essence divine, s'il était de nature divine, briserait l'unité de Dieu. Alors il n'y a que deux solutions, ou bien le sabellianisme, affirmer que le Fils n'est qu'une émanation de l'essence du Père, mais ça, Arius s'y oppose. Et la deuxième solution pour sortir du dilemme, c'est d'affirmer que le Fils, en fin de compte, n'est pas d'essence divine. Alors immédiatement, dans tout l'Empire, c'est une controverse terrible, partout. Et les thèses d'Arius sont immédiatement combattues par la majorité des évêques, des théologiens de l'époque, qui insiste sur le fait que, en niant la divinité du Christ, ils ont raison d'ailleurs dans ce qu'ils disent là, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est tout la rédemption qui est acquise par le Christ qui est remise en question. Si Christ n'est pas Dieu, alors son sacrifice expiatoire pour la race humaine est vain. Parce que précisément le but du sacrifice rédempteur du Christ, c'était de diviniser la race humaine, de l'élever jusqu'à Dieu. Or, pour pouvoir l'élever jusqu'à Dieu, il fallait que le rédempteur lui-même soit de nature et d'essence divine. À partir du moment où l'on nie qu'il soit de nature et d'essence divine, la rédemption qu'il va apporter sera une rédemption obligatoirement incomplète. Parce qu'il ne parviendra plus à élever l'humanité rachetée jusqu'à Dieu. On cite le texte de Paul dans 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas, quand il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds, alors le Fils lui-même sera soumis au Père afin que Dieu soit tout en tous. Alors, on est ici dans un problème extrêmement important, central. Ce n'est pas simplement une querelle byzantine, mais ici, c'est la nature et l'essence du salut qui est en jeu. En fait, Christ est-il ou n'est-il pas le Rédempteur? Ou, en fin de compte, qu'est-ce que le christianisme? Le christianisme est-il réellement la révélation du salut en Jésus-Christ? Ou bien est-il uniquement une morale? Finalement, l'arianisme réduit l'évangile à n'être qu'une morale. Et Arius s'attache à montrer finalement que le salut est un salut qui s'obtient en fin de compte par le progrès moral. Le progrès moral qui part de l'enseignement que Jésus est venu apporter. Alors bien sûr, on ne nie pas que Jésus soit né miraculeusement, qu'il soit né du Saint-Esprit, mais ce que l'on nie, c'est qu'il soit en fin de compte d'essence divine. Et tout part de l'idée de la subordination du Fils au Père. Et ça, c'est très important, parce que justement, à Nicée, on va attaquer sur ce point-là. Et la formulation nicéenne, en fait, qui va sortir sur la question de la subordination du Fils au Père, sera excessive. Nous ne pouvons pas accepter, à la lumière du Nouveau Testament, l'ensemble de la déclaration de Nicée à cause de cela. Parce qu'on escamote la doctrine de la subordination du Fils au Père. Et on le fait parce que justement Arius, lui, insistait sur ce point-là pour, à partir de cette question de la subordination, en tirer toutes les conclusions qui étaient les siennes. Alors voyez-vous, on voit ici comment naissent les grandes hérésies. Une hérésie, c'est souvent une réaction contre une autre hérésie. Dans le feu de la polémique, chacun insiste sur ses arguments qui représentent une partie de la vérité. Mais finalement, il insiste tellement sur cette partie de la vérité que celle-ci occulte les autres aspects de la vérité. C'est vrai que les sabellianistes avaient absolument tort, les sabellianistes qu'on retrouve encore aujourd'hui, comme on a eu l'occasion de dire, avec par exemple les gens qu'on appelle Jésus seul, aujourd'hui qui rebaptisent au nom de Jésus seul, les gens qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai que le Nouveau Testament enseigne d'une manière très claire la personnalité du Père et la personnalité distincte du Fils par rapport au Père. Il suffit par exemple de reprendre l'évangile de Jean, chapitre 17, et puis de se rendre compte que vouloir faire du Père et du Fils la même personne, c'est une ineptie, c'est une stupidité. Père, glorifie-toi de la gloire que tu avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est l'idée, les paroles de Jésus, leur substance. Jésus parle au Père comme à une personne différente de lui-même, même si, par ailleurs, il dit « nous sommes un ». Donc, Arius avait raison, contre les sabellianistes, de dire que le Père et le Fils étaient des personnes différentes. Il avait raison, contre eux, justement, de dire, et contre les partisans de l'homonousie totale, de dire que le Fils était subordonné au Père, éternellement subordonné au Père. Dans l'éternité, il sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est clair. Le Nouveau Testament est très clair sur ce plan-là. Seulement, parce qu'il en tirait ensuite des conclusions qui étaient fausses, les gens de Nicée, eux, ont voulu gommer totalement la subordination du Père, du Fils par rapport au Père. Et dans les grandes déclarations de foi des Églises aujourd'hui, eh bien, c'est presque toujours ce qui ressort. Mais on aura l'occasion d'y revenir, si vous voulez, quand on arrivera au Concile de Nicée. En fait, on arrive à cette idée que seul le Père est Dieu, que seul il était au commencement, qu'il a créé le Fils en le tirant du néant à un moment donné de l'histoire. Et pour Arius, cette création du Fils est le commencement du temps. Avec la création du Fils commence le temps. Et il fait allusion ensuite à ce que Paul dit, il est le commencement de la création de Dieu. Il est celui qui a créé toutes choses. À partir du moment où le Fils est créé, donc commence l'œuvre de création de Dieu. Par lui, le Fils devient l'agent, le logos, par lequel le Père crée l'univers. Donc nous avons affaire à un être particulièrement élevé, nous dit Arius, infiniment supérieur aux anges, mais cependant un être qui n'est pas un être de nature divine. Par la suite, les néo-ariens, après la mort d'Arius, iront encore beaucoup plus loin que lui et affirmeront qu'avec le Fils est créé aussi Satan, le principe du mal, qui vont se trouver en conflit pendant toute la période du temps qui commence au moment de cette création-là. Donc, le Fils est un être fini. Donc, la rédemption n'est pas une divinisation substantielle de l'humanité. Et à partir de là, ce qui est important pour être sauvé, c'est de recevoir l'enseignement du Logos, c'est de vivre cet enseignement du Logos, et puisque le salut s'obtient uniquement par la pratique de ce qui est enseigné, le Logos n'a nullement besoin d'être d'essence divine. Voilà, en gros, résumé, ce qu'est la doctrine d'Arius. En 318, Arius est de nouveau condamné et il est destitué par l'évêque, l'évêque d'Alexandrie. Lequel le coince, si j'ose dire, sur la question de la génération du Logos. Et il rappelle ce qu'avait enseigné Origène, à savoir, encore une fois, que le Fils est engendré et non créé, éternellement engendré par le Père. Donc, le Fils est éternel comme Dieu, et s'il est éternel comme Dieu, ça veut dire qu'il est égal au Père par essence. Et là, justement, on discute sur la question de la subordination. Cette formule, le Fils est égal au Père par essence, laisse supposer qu'il peut y avoir une subordination du Fils au Père. Mais ils sont égaux par essence, c'est-à-dire dans leur être profond. Ça veut dire qu'ils sont d'essence divine, de nature divine, tous les deux. Et cela signifie que s'il y a subordination, c'est une subordination volontaire du Fils au Père. Là, on peut être d'accord avec cette formule, n'est-ce pas ? De la même manière qu'un fils et un père sont de même essence, sont de même nature, mais il y a prééminence de l'un sur l'autre, parce que l'un est avant l'autre. Il y a le père, il y a le fils. Dans l'ordre, évidemment, de la divinité, ce n'est pas une préséance dans le temps, mais c'est une préséance dans la dignité. On aura l'occasion de revoir tout ça quand on parlera de la doctrine de Dieu. Alors, justement, rétorque Arius, oui, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a deux personnes. Oui, répondent les partisans de l'évêque. Eh bien, à ce moment-là, vous avez deux dieux, répond Arius. Et là, réponse des autres, C'est un mystère incompréhensible à l'homme. Alors évidemment, Arius tourne ça en dérision, disant, ben, c'est un peu facile de dire c'est un mystère incompréhensible à l'homme. Et c'est alors qu'on arrive à nouveau sur cette question de l'homoïousie. Enfin, c'est dans ce sens-là que l'évêque dit, eh bien, le Fils et le Père étant de la même essence, on peut parler d'homoïousie. Et c'est parce qu'on peut parler d'homoïousie qu'on peut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un seul. Parce qu'ils sont consubstantiels. Et pourtant, ils ont chacun leur personnalité propre. Alors là, voyez-vous, on est vraiment au cœur de cette formulation trinitaire qui est au centre, finalement, du christianisme. Voyez-vous, par toutes ces querelles, on est arrivé justement à cette définition dogmatique du mystère de la Trinité, du mystère qui n'est pas exprimé d'une manière dogmatique dans la Bible, mais qui manifestement est contenu dans l'Écriture sainte. On aura l'occasion d'y revenir aussi. Alors, pour trancher la question, finalement, on convoque un premier concile. Pardon, un premier synode. Le synode de Nicomédie, qui se rassemble dans la capitale de l'Empire d'Orient, où siège l'empereur Constantin. Bien, ça se termine par la condamnation d'Arius. Vous pouvez s'y attendre, d'ailleurs. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Parce que Arius a des partisans importants, notamment à Antioche. Et même auprès de Zèbre de Césarée, qui va jouer un jeu pas très clair dans toute cette affaire, dans ce sens que, alors que l'église locale à laquelle appartient Arius, c'est-à-dire l'église d'Alexandrie, le condamne, donc logiquement, il devrait y avoir solidarité des autres églises dans ce domaine, l'église d'Antioche, au contraire, reçoit Arius, tout en n'étant pas d'accord avec sa doctrine. Voyez-vous ? Là, il y a toute une subtilité, un jeu subtil qui est finalement un jeu politique. Et on se rassemble à Césarée, chez Eusèbe, et là on affirme que contrairement aux décisions du synode de Nicomédie, qui disait que Arius devait être dépouillé de toutes ses fonctions, on dit que bien qu'hérétique, Arius peut continuer à exercer ses fonctions de presbytre. Alors évidemment, l'Église d'Égypte réagit très très violemment, disant mais c'est une ingérence intolérable dans les affaires d'une autre Église. Vous n'avez pas à vous immiscer dans nos affaires. En fait, rien n'y fait. À Alexandrie même, Arius a des partisans nombreux, et on peut dire que c'est tout simplement la dislocation de l'Église d'Égypte. Il y a une division totale dans ce pays entre les partisans d'Arius et les adversaires. Et à partir d'Alexandrie, la division se répand dans tout l'Orient. Alors là, c'est sans les trous. L'empereur se doit de réagir, et en 324, il convoque un concile. C'est-à-dire, il convoque tous les évêques de la chrétienté, en leur disant, écoutez, il y en a marre. Mettez-vous un peu d'accord, mettez un peu d'ordre dans cette cacophonie absolument inénarra, parce que finalement, c'en est arrivé là. Alors, cette intervention de Constantin, qui rassemble d'abord les évêques dans sa capitale provisoire, finalement échoue. Et un nouveau synode se rassemble à Antioche, qui cette fois-ci prend position contre Arius. Alors on prend position pour, on prend position contre, ça change constamment. Si bien que ici, ça aboutit à une confusion et quelque chose d'absolument incroyable. Alors cette fois-ci, c'est Constantin frappe un grand coup. Il prend sur lui de convoquer cette fois-ci l'ensemble de la chrétienté. Alors, le concile se rassemble à Nicée, qui est à 50 km au sud de la capitale de l'Empire d'Orient, Nicomédie. Logiquement, sont rassemblés là tous les évêques de l'Orient, de l'Occident, sous la présidence de l'empereur. Là, l'empereur s'est résolu à ce qu'il avait toujours répugné de faire jusque maintenant, c'est-à-dire prendre lui-même les choses en main. Mais là, la pagaille est telle que c'est la dislocation du christianisme dans l'Empire, en tout cas dans la partie orientale de l'Empire. L'Occident n'est pas touché. Mais l'Orient, oui. Alors, l'empereur, bon gré mal gré, est obligé de prendre les choses en main. Alors, il paye lui-même le déplacement des évêques. Ils sont logés, nourris à ses frais dans son palais, s'il vous plaît, pendant toute la durée du concile. Et Constantin ne recule devant rien, n'est-ce pas, pour faire étalage de luxe aux yeux, justement, des évêques. On pense qu'il y a entre 250 et 300 évêques qui sont rassemblés à Nicée. La majorité sont des évêques orientaux, qui sont directement concernés par le problème. Il y a, en fin de compte, peu d'évêques et peu de représentants de l'Occident. Rome n'est pas représentée. L'évêque de Rome ne s'est pas déplacé. Tout à fait cocasse de voir que le premier concile œcuménique n'est même pas présidé par le pape et que le pape y est absent. Il s'est contenté d'envoyer deux légats, plutôt en observateur d'ailleurs, qu'en intervenant. En fait, on peut dire que le concile est présidé par l'empereur lui-même. Et ce faisant, l'empereur et les évêques ne s'en rendent pas compte, fait une révolution. Parce que, en convoquant le concile, il établit une instance suprême dans l'Église. Instance suprême qui n'existait pas jusqu'alors. Et là, parler par exemple de l'autorité, de la primauté du pape à cette période-là, c'est une ineptie historique de premier ordre. Il est clair qu'au IVe siècle, et pendant les deux ou trois siècles à venir, l'autorité suprême dans l'Église ne sera pas l'autorité du pape, mais sera le concile œcuménique, institué par Constantin. Et les orientaux, c'est-à-dire les orthodoxes de nos jours, ne se font pas faute de le répéter aux catholiques. C'est au nom, justement, de cette institution qu'ils rejettent l'autorité papale. Voyez-vous ? Alors, à partir de ce moment-là, nous avons une autorité centrale dans l'Église, qui est l'émanation de l'Église elle-même. Alors, les évêques qui sortent tout droit de la persécution, on est encore très proche de la dernière des grandes persécutions, certains évêques portent encore d'ailleurs dans leur corps les marques de torture auxquelles ils ont été soumis. Ces gens qui ont vécu parfois dans des conditions extrêmement rudimentaires, certains ont vécu comme ermites, se retrouvaient dans le palais de l'empereur, dans l'étalage du luxe extraordinaire, honorés parce que l'empereur avait bien pris soin d'honorer, de montrer toute la déférence qu'il avait vis-à-vis justement de ces saints hommes de Dieu, comme il les appelait. Et le premier jour du concile, il a ouvert lui-même le concile en grande pompe. Tous les pères étaient là, installés, des trônes d'or. Il y avait le trône de l'empereur qui était plus haut que tous les autres, évidemment, qui était vide. Et puis la porte s'est ouverte, tous les pères se sont levés comme un seul homme pour accueillir l'empereur qui est entré en grande pompe, vêtu de ses habits de pourpre, d'or, de pierreries, pendant que des trompettes saluaient l'entrée de l'empereur. Gardez les yeux baissés humblement par terre, dit Eusèbe de Césarée. Alors, il a été applaudi, n'est-ce pas, par l'ensemble des évêques qui ont salué en lui celui qui avait donné la paix de l'Église, et l'empereur a commencé tout immédiatement vers le concile par un discours dans lequel il évoquait ce qu'était son but, n'est-ce pas, à savoir que la chose importante, eh bien, c'était la paix et l'unité de l'Église, et partant, l'unité et la paix de l'Empire romain. Alors, l'empereur a refusé de s'asseoir jusqu'à ce que les évêques l'invitent à s'asseoir, et enfin, il a consenti à s'asseoir. Quand l'empereur s'est assis, tout le monde s'est assis. Puis là, on est entré quand même dans les choses sérieuses. Là, ça a chauffé. Ça a chauffé parce que il y avait les partisans d'Arius et les adversaires d'Arius. Il y avait les différentes tendances, il y avait les Alexandrins, il y avait les Antiochiens. Et puis, tout ce beau monde-là se disait des aménités qui n'étaient pas formidables du tout. L'empereur, qui se taxait, qui se piquait de théologie d'ailleurs, c'était son passe-temps la théologie. C'était une nullité théologique comme on n'en fait pas. Dès qu'il ouvrait la bouche, c'était pour dire des âneries grosses comme lui. Absurdité sans nom, mais ça fait rien, tout le monde écoutait avec beaucoup de respect, beaucoup de déférence, parce que c'était l'empereur. Et l'empereur a commencé par écouter avec beaucoup d'attention les débats, sans intervenir, puis quand il a vu que ça tournait à la foire dans le coin, il s'est décidé à intervenir. Et en particulier, les débats ont tout de suite tourné autour du problème de l'homoïousie. Qu'est-ce qu'il faut entendre par le fils consubstantiel au père? Et là, il y avait en particulier un diacre d'Alexandrie qui se nommait Athanase, jeune diacre, qui était un très très brillant théologien, qui devait faire d'ailleurs ensuite une carrière extrêmement importante, et qui lui défendait à fond le terme d'homoïousie, consubstantiel au père. Le fils est consubstantiel au père. Et la majorité des pères refusaient cette expression, parce qu'il l'a trouvé trop ambigu. Parce qu'encore une fois, nous avons vu qu'au moment de la première querelle d'Alexandre,